Radio Kapi.
Le journal. Lievin Mbwinga Vubu à la présentation.
Bonsoir et merci à vous d'avoir choisi Radio Kapi pour vous informer. Voici les titres de ce journal. La RDC au rythme des campagnes de vaccination à partir d'aujourd'hui 10 avril. Plus de 6 provinces sont concernées par cette opération. Nous irons tour à tour à Kindu, Kalemie, Kisangani et Kinshasa. Dans ce journal également, l'appel du coordonnateur du programme élargi de vaccination dans la capitale vis-à-vis des parents. Nous parlerons aussi de cette colère d'une centaine d'enseignants de la zone éducationnelle Nord Kivu 1 et 3. Ils plaident pour le traitement rapide de leurs dossiers liés au transfert de leur salaire. Certains d'entre eux n'ont rien reçu depuis 3 mois. Nous allons nous attarder encore une fois sur la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Direction Kindu Maniema, où le coordonnateur du PEV va nous expliquer comment cette opération se déroule sur place. Docteur Walumba Omari est notre invité. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. C'est parti depuis ce jeudi avec les campagnes de vaccination contre la polio dans plusieurs villes de la RDC. Avant d'aller en province, nous parlons d'abord de Kinshasa, où cette opération concerne les 35 zones de santé que compte la capitale. La méthode adoptée est la stratégie de porte à porte et elle s'achève ce samedi 12 avril. Cette campagne cible les enfants de 0 à 59 mois. À cet effet, le coordonnateur PEV de la ville province de Kinshasa invite tous les parents d'accueillir les vaccinations qui vont passer vacciner leurs enfants en vue d'éradiquer cette maladie en RDC. On écoute le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination de la ville de Kinshasa. Docteur Eddy Makengo est au micro de Sarah Soumbela et de Stanislas Diumi.
Et là, nous sommes en train de lancer une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville province de Kinshasa qui va concerner les 35 zones de santé. Donc la stratégie, c'est les porte-à-porte. Donc nos équipes de vaccination vont passer de porte-à-porte, de ménage à ménage, d'une avenue à une autre, d'une parcelle à une autre parcelle pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois contre la poliomyélite. Par rapport aux parents, nous leur demandons d'abord d'accueillir les vaccinateurs qui vont passer dans leur ménage, de les accueillir et de leur confier leurs enfants de 0 à 59 mois, donc les enfants de moins de 5 ans, pour qu'ils reçoivent les 2 gouttes de vaccin. Et ce sont les gouttes de vaccin qui sont protectrices pour leurs enfants contre cette maladie qui est invalidante.
Notre ronde des provinces nous emmène à présent au Maniema, où cette campagne est aussi effective depuis ce jeudi. Comme prévu, les vaccinateurs passent de porte à porte pour vacciner les enfants. Bonne nouvelle pour cette première journée, les vaccinateurs disent n'avoir rien constaté comme résistance auprès des parents. Cependant, l'autorité provinciale appelle à la responsabilité de tous les acteurs pour la réussite de cette activité de 5 jours, soit du 10 au 14 avril courant. Depuis Kindu, le reportage est signé Florence Kizalunga.
Il se promène à une équipe de 3 personnes, un mobilisateur, un vaccinateur et un pointeur. Une fois dans le ménage, le vaccinateur administre 2 doses de VPO aux enfants cibles pour les protéger. Madame Maria Mukapeka, une vaccinatrice, remercie le parent pour l'accueil réservé.
Aujourd'hui, nous sommes en train de vacciner les enfants de 0 à 14 ans. C'est premier jour de vaccination, nous commençons à entrer porte à porte, donner les vaccins aux enfants. Nous donnons les vaccins de VPO. Les parents acceptent sans problème. On nous donne leurs enfants, nous les vaccinons sans problème.
Ces parents de 5 ans livrent ses impressions et encouragent les autres parents à faire vacciner leur progéniture.
Je suis père de 5 enfants. Pour leur bonne santé, comme je vois les vaccinateurs sont en train de passer, j'accepte qu'on les vaccine pour leur bonne santé et pour leur protéger contre la poliomyélite.
Pour la province du Maniema, plus de 400 000 enfants de 0 à 14 ans révolus sont entendus dans 6 zones de santé. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Journée assez particulière aussi dans le Tanganyika où cette campagne contre la polio a bel et bien commencé. Mais d'abord, ces chiffres non reluisants. 247 enfants sont paralysés à cause de la poliomyélite depuis 2017 dans cette province. Des chiffres livrés par le ministre provincial de la Santé ce jeudi. C'était justement lors du lancement de cette campagne de vaccination contre la polio. Mais quelles sont les raisons qui justifient cette situation? Parmi elles figure la négligence de certains parents sur la question de la vaccination, indique le ministre. contre les propos du ministre provincial de la Santé du Tanganyika, Dr Benoît Maloumbi, sont sélectionnés ici par Paulin Mounanga.
Cet événement marque une étape décisive pour notre province dans la lutte contre cette maladie invalidante qui menace encore la santé et l'avenir de 8773-717 enfants du Tanganyika. Pour rappel, en 2024, 4 cas ont été enregistrés au cours du premier semestre dans les zones de santé de Kalemi, Nyemba, Kansimba et Nyunzu. La province compte depuis 2017 à ce jour 247 enfants paralysés répartis dans les 6 territoires de la province. Ces enfants ne marcheront plus jamais du fait de la poliomyélite, pourtant une maladie évitable par la vaccination. Parmi les raisons justifiant cette confirmation continue des cas de polio dans nos provinces, on note la faible utilisation des services de vaccination par certains parents et la persistance des refus par certains groupes religieux.
Nous poursuivons la ronde de cette campagne de vaccination contre la polio, cette fois dans la province de la Tchopo. L'opération a aussi démarré sur place ce jeudi 10 avril. À Kisangani, précisément, cette vaccination se fait selon la planification, déclare une source proche des partenaires techniques du gouvernement. Cela veut dire que les vaccinateurs passent dans les quartiers et avenues dans le délai de 5 jours prévu selon le programme y afférent. Rappelons que dans la province de la Tchopo, plus de 2 269 000 enfants sont ciblés par cette opération. Toujours dans la Tchopo, nous vous parlions de la déclaration de l'épidémie de choléra dans la province il y a quelques jours. 3 jours après cette annonce, les autorités sanitaires prennent des dispositions pour la prise en charge des malades au centre de traitement des épidémies installé dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kisangani Makiso. Le site est déjà identifié et on attend que la construction d'une structure spéciale pour l'hébergement des patients. Jacques Mokonkole nous en dit plus.
Parmi les entités affectées par cette épidémie figure la zone de santé de Makiso. Dans l'enceinte de l'hôpital général de référence, un centre de traitement des épidémies y est installé. Cependant, celui-ci ne peut recevoir les patients du choléra, soulignait le docteur Gilbert Omba Longongo, son médecin traitant.
Dans notre centre traitant, nous avons encore d'autres malades d'Mpox. On a dit que quelqu'un avec choléra, si vous mélangez avec les gens d'Mpox, ça sera encore grave, très grave encore parce qu'il y a des épidémies.
Des malades identifiés figurent ceux du camp Baouma. Ils sont soignés sur place dans leur lieu d'hébergement. En attendant qu'ils soient transférés au centre de traitement, un site d'isolement est actuellement en préparation à côté du centre traditionnel de traitement des épidémies. Selon le docteur Gilbert Omba, MSF déjà au chevet des malades a déjà acheminé beaucoup de matériel nécessaire pour la construction des hangars ainsi que des médicaments et de matériel de protection. D'ici quelques jours, ce centre pourrait être opérationnel. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Place à cette colère d'une centaine d'enseignants de la zone éducationnelle Nord Kivu 1-1-3. Ils plaident pour le traitement rapide du dossier lié au transfert de leur salaire par Mobile Money. Ces enseignants issus du territoire de Masisi, Rutshuru et Walikale traversent en effet une période très difficile, non seulement liée à la guerre, mais aussi à la crise financière qui sévit dans les zones occupées. Ces enseignants qui étaient jadis payés par le canal de Caritas n'ont pas reçu leur salaire depuis 3 mois pour certains. Ces derniers ont écrit à la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté le 7 avril dernier pour solliciter son implication afin qu'ils accèdent à leur salaire. Suivez les plaintes d'un de ses enseignants, Bismarck Kamudigi.
Si je porte la voix des enseignants, des parents et des enfants du territoire de Rutshuru, de Masisi et de Walikale, la voix de détresse, c'est depuis la fin décembre, donc depuis janvier jusqu'au mois, ce mois d'avril, que les enseignants de ces 3 territoires répartis dans les 2 provinces éducationnelles n'ont pas reçu leur salaire.
Nous parlons par rapport à ces enfants, par rapport à ces parents. Vous savez que les produits vivriers n'ont plus de prix, les prix sont en baisse. Vous connaissez que la vie vraiment est au ralenti, au nord qui vous la vit. Quand en ville on souffre, maintenant imaginez-vous dans les territoires comment ça se passe. Nous demandons que la ministre de l'Éducation, tous les acteurs de l'éducation, l'INACOPE s'impliquent pour que au moins les enseignants reçoivent leur salaire en virtuel. On peut manquer ou retirer, mais quand on a cet argent, on peut retirer même 10 000 francs pour que les enseignants puissent quand même trouver à quoi manger, comment acheter du savon, comment entretenir leur famille.
Contacté, le responsable de l'éducation Provède Nord Kivu, Jean-Marie Baweza, indique que le processus est presque à la fin. Il reconnaît la préoccupation des enseignants et les rassure que d'ici à la semaine prochaine, chaque enseignant recevra son salaire. Autre nouvelle du nouveau dans l'affaire du naufrage du bateau Jados survenu dans la nuit de lundi 7 avril sur le fleuve Congo aux environs de Mbandaka. Cet accident qui se produit dans la localité de Maïta à plus de 30 km de Mbandaka a causé la mort d'une centaine de personnes selon les dernières informations livrées par les députés de l'Équateur conduits par Joséphine Pacifique Lokoumou au bureau de l'Assemblée nationale. Devant ces députés, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Djoli, rassure et annonce une mission parlementaire. On écoute Joséphine Pacifique Lokoumou, rapporteur du caucus des députés de l'Équateur. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Et comme la baleinière était bien chargée, il y a eu beaucoup de cas de mort. Et jusqu'à hier soir, on dénombrait déjà 52 corps qui étaient retirés de la baleinière. Et donc ce travail s'est poursuivi jusqu'à ce matin. On continue à repêcher le corps. Aux dernières nouvelles, on parlait déjà de plus de 100 morts. Et alors, nous sommes venus chez l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale pour l'alerter sur cette catastrophe qui vient d'avoir lieu dans la province de l'Équateur, pour que l'Assemblée nationale fasse quand même le nécessaire pour apporter assistance à la population sinistrée, pour qu'on arrive à avoir la possibilité de pouvoir aider la province de l'Équateur à faire face à cette situation.
Je vous rappelle que la baleinière avait quitté la ville de Mbandaka pour se rendre au marché de Mobenzeno à plus de 40 km de la ville. L'actualité du côté du territoire d'Irumouan-Ituri, c'est la destruction des engins explosifs non explosés hier mercredi à Boga. Cette importante quantité d'engins a été découverte récemment dans la cité de Boga, à 110 km de la ville de Bounia. L'opération de déminage a été menée par l'ONG Afrique pour la lutte anti-mine, AfriLam en sigle. Cette structure appelle la population à la vigilance car, dit-elle, des mines sont disséminées presque partout dans cette région où les rebelles des EDF sont très actifs. Reportage Martial Kizabiamungu.
Il s'agit de 21 roquettes de type RPG-7 enfouies dans les sols par des inconnus non loin du cas des FRDC à Boga Centre. Selon des sources locales, c'est grâce à une alerte de la population que les FRDC ont fait appel à l'équipe de déménage de l'ONG Afrique pour la lutte anti-mine AfriLam avec l'appui de la MONUSCO. Selon les superviseurs d'AfriLam, l'opération de destruction s'est déroulée sans incident malgré de fortes détonations entendues au centre de Boga. Alain Kansongo demande à la population de continuer à alerter les services de sécurité en cas de découverte d'objets suspects dans cette zone des victimes de l'activisme des rebelles des ADF.
Nous disons à toute la population que les effets des guerres ne sont pas une bonne chose. Si tu découvres ce qui ressemble aux objets ou aux treillis militaires, la population, ne touchez pas. Informez directement les autorités locales, les FARDC, et on va nous appeler, nous viendrons pour les déminer.
Le notable de Boga salit cette intervention d'AfriLam qui, selon eux, protège des vies humaines qui étaient à danger de mort. Il souhaite que des recherches approfondies puissent être menées pour déminer toute la zone de Boga et ses environs. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Direction la province de l'Omami où il y a eu lancement mardi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de Cabinda. C'est le gouverneur de province qui a lancé ces travaux en présence des autorités politiques et administratives de l'Omami. Esther Ndalafina pour le reportage.
Ces travaux sont entièrement financés par le gouvernement provincial de l'Omami et exécutés par l'Office de voirie et drainage OVD. Ils consistent en la suppression des nids de poules, la réhabilitation des bourbiers sur plus de 2 km de route, le reprofilage de la plateforme routière sur une largeur de 10 mètres, le rechargement, le compactage du sol et l'élagation des arbres. Les principales artères de la ville concernées par ces travaux sont l'avenue Kabambare, qui relie la ville à la mission Kalonda, Cabinda, Kande et Ludimbi. Des interventions seront ensuite étendues à l'avenue Yakaumbu. Selon les directeurs provinciaux intérimaires de l'OVD, les travaux sur l'avenue Kabambare débutent immédiatement et doivent durer environ 20 jours. Le gouverneur de province a indiqué que la réhabilitation de l'avenue Kabambare va contribuer à améliorer la mobilité des habitants, à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer la connectivité entre les différentes zones de la ville. Il a en outre appelé la population de Kabinda à s'approprier ce projet d'infrastructure routière. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, l'opposition parlementaire décide de boycotter la séance de questions d'actualité assurée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette plénière, initialement programmée ce jeudi, se tiendra finalement lundi en l'absence de 35 députés de l'opposition qui dénoncent des dysfonctionnements de l'Assemblée nationale.
L'invité.
Je le disais en ouverture de ce journal, c'est ce jeudi 10 avril que débute la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans les provinces du Haut-Katanga, Olomami, Tanganyika, Kinshasa, Tshopo et Maniema. Cette campagne de 5 jours, soit du 10 au 14 avril, cible cette fois-ci les enfants de 0 à 14 ans révolus, une première dans l'histoire de la vaccination au Congo. Pour en parler, nous recevons le docteur Walumba Omari, chef d'antenne PEV Kindu. Il répond aux questions de Florence Kizalunga.
Docteur Walumba Omari, bonjour.
Bonjour madame, journaliste.
Nous sommes dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite, mais nous observons que cette fois-ci, la campagne, la cible, ce sont les enfants de 0 à 14 ans révolus. Pourquoi cette particularité?
Bon, cette particularité est due au fait que le cas qui a été confirmé dans la zone santé de Loa, c'était un enfant âgé de 14 ans. Alors, pour essayer de protéger les autres enfants, qui ont pratiquement cette tranche d'âge-là. Il a été décidé par le gouvernement national avec l'aide de ses partenaires et au vu de l'analyse de risque de pouvoir étendre l'âge jusqu'à 14 ans révolus, contrairement à la tranche qu'on a toujours utilisée, celle de 0 à 59 mois.
Docteur, pensez-vous que la tâche sera facile pour vous étant donné que c'est la première fois de faire ça?
Effectivement, la tâche ne sera pas facile, comme vous le dites. Ça sera la première fois qu'on organise une campagne qui prend en compte les enfants de 0 à 14 ans. Mais ce qui est plus important, c'est la mobilisation en amont. Donc, il faudra que nous puissions, et comme nous l'avons déjà fait, en train de travailler vraiment énormément dans le cadre de la mobilisation pour que les enfants là dont on n'a pas l'habitude de vacciner, on puisse également les vacciner. Donc, c'est une affaire de responsabilité aussi des parents, sachant qu'il y a un risque que ces enfants-là soient en train de courir. Donc, ça va être important qu'au-delà de 5 ans qu'on a toujours vacciner, que les autres enfants puissent être vaccinés.
Docteur, les enfants de 14 ans sont déjà à l'école secondaire. Est-ce que vous allez passer dans des écoles pour vacciner les enfants ou bien quelle stratégie que vous avez mise en place pour récupérer facilement ces enfants?
Effectivement, une de notre partie se trouve déjà au niveau de l'école primaire et même une partie de l'enseignement de base, ce qu'on appelle 7e, 8e. Alors, la situation est un peu complexe parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des écoles où les élèves continuent d'étudier et d'autres écoles qui ont pratiquement fermé. Alors, pour celles dont les élèves continuent à étudier, je pense que, comme on a dit lors même du lancement là-bas, qu'à part la stratégie porte-à-porte, il y a d'autres stratégies qui vont être utilisées pour essayer un peu de retrouver tous les enfants cibles. C'est notamment dans les écoles, dans les églises, les marchés, les points de concentration. Donc, tous ces points-là, tous ces endroits-là seront visités par les équipes de vaccination pour permettre de capter tous les enfants cibles.
On ne les souhaite pas. En cas de résistance de ces enfants de 14 ans, par exemple, qu'est-ce que vous préconisez faire? Quelle autre stratégie que vous allez prendre pour le récupérer?
Bon, Madame Florence, vous savez que même dans les campagnes passées où on vaccinait les moins de 5 ans, le cas de refus existe toujours. Mais, quelle que soit l'existence de ces cas-là de refus, il y a toujours des stratégies qui sont mises en œuvre pour essayer un peu de convaincre le parent qui sont d'abord responsables d'enfants pour que ces derniers acceptent ou adhèrent à la vaccination. Donc, toutes les stratégies sont utiles pour permettre de faire adhérer les parents à la vaccination et finissent de faire vacciner leurs enfants.
Là, je pense que vous pouvez avoir un message précis à tous les parents et aux enfants même des 14 ans.
À tous les parents, nous leur demandons de recevoir les équipes de vaccination parce que la campagne commence déjà le 10 et nous allons demander aux parents de pouvoir attendre les équipes qui vont passer porte à porte pour vacciner tous les enfants. Et là, nous insistons tous les enfants de 0 à 14 ans. Qu'aucun enfant ne puisse rater cette vaccination parce que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une opportunité pour qu'il y ait une tranche d'âge qui n'a toujours pas été vaccinée. Habituellement dans les campagnes passées, cette fois-ci, ça sera une opportunité pour que ces enfants aient aussi leur vaccin pour les protéger contre la polio.
Est-ce que la province du Maniema enregistre des cas de poliomyélite déjà?
Bon, la province du Maniema, par rapport à cette campagne, jusque-là n'a pas encore enregistré de cas de polio. Mais le cas qui fait l'objet de cette riposte ici, c'est un cas qui a été confirmé dans la province voisine, dans la zone santé de Loa. Et Loa ici, c'est une zone santé frontalière à plusieurs autres zones santé de la province du Maniema.
Docteur Walumba Omari, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà, ainsi se termine ce journal. Merci à vous qui nous suivez partout dans le monde et pourquoi pas à Matadi, Kikwit, Mbandaka, Bunia, Goma, Lubumbashi et Kinshasa. Merci également à Pele Kipela Mondo et à Dieudonné Nyangasa. Excellente soirée à toutes et à tous.